Radio Météo. Dométéo, un dialogue théologique avec les dominicains de Toulouse.
Bonjour frère Edouard.
Bonjour frère Louis.
On continue dans ce thème passionnant et édifiant et beau de l'Église sainte au numéro 823 et suivant. Et on parlait la dernière fois de cette Église qui est de fait sainte, mais encore imparfaite ou composée de pécheurs. Et en particulier, on dit qu'elle a la plénitude des moyens de salut, donc elle a un trésor inestimable dans ses mains, en particulier dans les mains du prêtre, qui peut confesser, qui peut absoudre les péchés, qui peut donner le Christ lui-même dans l'Eucharistie, qui peut baptiser. Mais est-ce qu'on peut recevoir la sainteté, malgré tout, par un mauvais prêtre ?
Alors, la tradition est très ferme là-dessus, depuis les réflexions de saint Augustin, à cause du schisme des donatistes qui s'étaient séparés de l'Église, et la question s'était posée, donc des gens de cathares, si vous voulez, à l'époque, qui étaient plus purs que les purs et qui refusaient les gens qui avaient pu commettre des fautes, ce qu'on appelait les lapsis, ceux qui étaient tombés, qui avaient abjuré leur foi devant la pression romaine et qui finalement voulaient revenir dans l'Église. Et les donatistes, donc, n'en voulaient pas. Et au contraire, l'Église disait, mais non, il faut accueillir les pécheurs et accepter les pécheurs. Et du coup, la question se posait, est-ce que les sacrements qui étaient donnés dans cette secte des donatistes restaient valables parce qu'ils étaient séparés de l'Una Sancta? Eh bien, il y a eu des courants qui étaient plutôt stricts, qui disaient non, ils se sont séparés, donc tout ce qu'ils font est mauvais. Et c'est là où il y a eu la grande lumière de saint Augustin, qui a été soutenue par le Saint-Siège de l'époque, le pape, qui a dit ici, quand Pierre baptise, c'est Jésus qui baptise, mais quand Judas baptise, c'est quand même Jésus qui baptise. Mmh. C'est-à-dire que le ministre peut être défaillant, personnellement, moralement, pour ce qu'il est, mais cette fonction qu'il a reçue de Dieu reste toujours efficace et valable. Et donc, il ne faut pas tenir compte de la physionomie spirituelle du ministre, mais regarder à Jésus dans la foi. Et c'est vrai que quand quelqu'un se confesse, il ne s'adresse pas à un prêtre, il s'adresse à Dieu dans sa prière. Il dit, Seigneur, pardonne-moi de ce que j'ai fait, etc. Le prêtre est seulement témoin, il écoute, et puis il donne au nom de Jésus, in persona Christi capitis, comme on dit dans la personne du Christ tête, l'absolution. C'est pas lui qui absout, c'est le Christ qui absout par ses mains. Mmh. Donc on comprend bien que le prêtre exerce une fonction de serviteur. Il est au service de cette sainteté. Il a reçu une fonction, un pouvoir pour que Jésus soit présent au milieu de son peuple, comme il l'a promis, « Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Jésus a utilisé des moyens extrêmement concrets à travers l'appel et les ministres qu'il a institués pour que cette présence se continue au long des siècles jusqu'à son retour dans la gloire.
Et est-ce que c'est mieux quand même si un prêtre est lui-même saint ?
Ah ben bien sûr, tous les textes de l'Église invitent les prêtres, les évêques, à être conformes à ce qu'ils administrent, c'est-à-dire à être saints. Et c'est toujours très triste, évidemment, quand le ministre se relâche et perd cet élan vers la sainteté qui lui est demandé par son ministère au moment de l'ordination. Les formules sont très claires, il s'agit d'être conforme à cet appel à la sainteté qui est le terme de cette action sacerdotale, presbytérale ou épiscopale, qui doit conduire donc les fidèles à être conformes au Christ.
Ah oui. Mais est-ce qu'il y a une différence entre un baptême donné par un prêtre saint et un baptême donné par un prêtre un peu défaillant ?
Alors non, du point de vue de l'efficacité de la grâce, c'est pareil. Par contre, effectivement, du point de vue de l'exemplarité, le bât blesse, parce que ce prêtre qui devrait montrer l'exemple et entraîner à plus de désir d'être conforme à la grâce, plus de vertu, plus d'élan, plus de générosité, plus de prière, eh bien, va donner un contre-exemple. Mmh. Et du coup, celui qui vient d'être baptisé, comme une petite pousse fragile encore, qui est descendue dans son cœur, n'aura pas, je dirais, un bel exemple pour avancer vers la sainteté. Et ce contre-exemple peut jouer à tort dans le cœur de celui qui vient d'être nouvellement planté, comme on dit prosélyte, et qui va donc se lasser très vite en voyant que celui qui l'a initié, dans le fond, n'est pas mieux que lui, et peut-être même pire, et du coup, les bras vont lui en tomber, et au lieu de s'avancer à grands pas vers le chemin de la sainteté, il va s'en écarter.
Oui, oui. Oui, donc il y a un travail, même pour la hiérarchie, un travail à avancer dans la sainteté pour permettre que les fruits portent soient plus nombreux.
Et oui, et c'est un peu comme quand on est plus visible, il faut être d'autant plus conforme. Hein. Mmh. C'est un peu comme un phare. S'il n'éblouit plus, quel va être son résultat? Nul. Hein.
On a régulièrement tendance à mettre le prêtre ou l'évêque sur un piédestal, un peu dans les hauteurs, et en se disant, puisqu'il est prêtre ou religieux, il est plus saint que nous. Mais est-ce que c'est juste de penser ça, de dire ça? Et est-ce que, par ailleurs, un laïc pourrait être plus proche de la sainteté qu'un prêtre?
Alors bien sûr, oui, il n'y a rien qui l'empêche, et on se souvient des belles descriptions de Dante Alighieri dans ses descriptions de l'enfer, du purgatoire et du ciel, où en enfer, il met parfois des ecclésiastiques, voire même des papes, hein, et il n'a pas peur de dire ils n'ont pas été conformes à ce à quoi le Christ les convoquait. Et donc, je dirais, même si la responsabilité est plus grande chez le prêtre et chez l'évêque, eh bien, il ne prend pas les moyens pour que cette conformité soit à la hauteur, eh bien, il va déchoir d'autant plus. On peut le dire aussi d'un religieux. Les religieux veulent prendre des moyens de sainteté plus efficaces pour ainsi être au Christ, mais ils peuvent très bien déchoir en cours de route. Et on a l'exemple très frappant au désert de saint Antoine qui voulait, sans être prêtre, qui voulait être religieux parfait au désert, et voilà qu'il a eu une révélation d'un ange qui lui disait, mais tu sais, tu fais beaucoup d'efforts d'ascèse, c'est très bien, tu te sanctifies, c'est très bien, mais l'ange lui dit, j'en connais un qui est plus saint que toi et qui est à Alexandrie, dans la grande ville. Et il dit, mais qui est-ce? Ça m'intéresse beaucoup. Il dit, c'est tout simplement le cordonnier. Parce que le cordonnier, à chaque fois qu'il enfonce un clou dans une chaussure, il dit en même temps la prière de l'aveugle de Jéricho, « Seigneur Jésus, prends pitié de moi, pécheur », et il n'arrête pas de le répéter parce qu'il a beaucoup de chaussures à faire, et du coup, il est beaucoup plus saint que toi. On raconte toujours cette anecdote d'un ecclésiastique qui arrive au ciel, et Saint Pierre lui dit, mais attends un peu, il y a quelqu'un de beaucoup plus important que toi qui arrive. Alors le prêtre est étonné, et c'est un laïc qui arrive, et Saint Pierre le fait passer en premier avec courbette, bravo, très bien. Et alors Saint Pierre s'inquiète, mais il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi, moi qui suis un bon ecclésiastique toute ma vie, tu fais passer comme ça un laïc? Et Saint Pierre lui dit avec un petit sourire, c'est que quand tu prêchais, eh bien, les gens s'endormaient, personne ne priait, alors que lui était conducteur de car, et dès qu'il se mettait au volant, tout le monde s'accrochait à son chapelet. Évidemment, c'est bien l'humour, mais on comprend très bien ce que ça veut dire. Ce n'est pas parce qu'on prêche la sainteté ou la prière que nécessairement on obtient des conversions des cœurs, parfois des personnes qui sont édifiantes par leur proximité vis-à-vis des plus pauvres, des petits de ce monde, peuvent entraîner plus vite à la sainteté que des grandes prédications.
Oui, oui. Donc en devenant religieux ou prêtre, on reçoit des moyens pour avancer plus vite peut-être, ou plus facilement, ou plus profondément dans la sainteté, mais ça ne veut pas dire pour autant que le prêtre ou le religieux arrivera à bien les utiliser et sera...
Exactement, exactement. On n'est pas avec la vie sacerdotale ou la vie religieuse sur un toboggan, c'est-à-dire on n'aboutit pas à l'extrémité du toboggan avec un automatisme juste par le poids de ce qu'on serait. Il faut faire ce qui convient, et Jésus a averti, vous dites Seigneur, Seigneur, mais vous ne faites pas ce que je dis, et c'est ça qui est le plus grave, je dirais. Éloignez-vous loin de moi, dit même Jésus d'une manière très grave à ceux qui auront dit Seigneur, Seigneur, mais qui n'auront pas appliquer ce qu'il dit.
Mais est-ce que ça vaut le coup, pour les auditeurs qui se posent la question de la vie religieuse, est-ce que ça vaut le coup quand même de rentrer dans la vie religieuse ou demander à devenir prêtre? Est-ce qu'il y a un intérêt particulier quand même?
Eh bien, c'est sûr qu'en prenant plus de moyens de sainteté, on a quand même une portion importante du peuple de Dieu qui y est parvenu. Il suffit d'aller dans chaque pays, de voir la liste des saints qui ont été canonisés, de voir qu'il y a quand même beaucoup de religieux, de religieuses, et beaucoup de saints prêtres, de saints évêques qui sont arrivés à cette sainteté. Il y a certainement des laïcs aussi, mais moins manifestes que ceux qui ont pris les moyens les plus directs pour la sainteté.
Ah oui, ah oui. Très bien. Ben merci, frère Edouard. À bientôt.
À bientôt.